Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On va parler sondage et politique. Il y a parfois une méfiance des instituts de sondage. Nous sommes avec Édouard Le Cerf, qui est directeur général de BVA. Et avec Yann. Bonjour Yann.
Bonjour Pascal.
Vous avez confiance en les sondages ?
Écoutez, les sondages, ils sont tout à fait fiables à l'instant où ils sont faits. Mais nous sommes à 6 mois des élections, Pascal. Tout peut arriver, comme dans le passé, tout est arrivé.
Vous parlez comme un directeur d'institut de sondage. Donc vous allez pouvoir échanger.
Merci, monsieur. La pédagogie et toute la polémique qu'il y a actuellement a aussi un avantage.
Et vous entendez la voix de monsieur Le Cerf qui va pouvoir intervenir dans une seconde. Le rappel des titres avec Amandine.
Et elle a eu ce drame dans l'Hérault. Une femme de 77 ans a été retrouvée décapitée dans sa maison. Ça s'est passé à Agde. Des investigations sont en cours. Il n'y aura désormais plus de match de foot professionnel. Le 5 mai, le Sénat a en effet voté la proposition de loi en hommage aux victimes de la catastrophe du stade de Furiani. Le texte est donc définitivement adopté au Parlement. Et puis ça vient qu'on a le détail du prochain Tour de France, l'édition 2022, départ donc de Copenhague au Danemark, ce sera le 1er juillet. Et puis parmi les temps forts, je vous cite les pavés du Nord, l'ascension de la planche des belles filles ou encore celle de l'Alpe d'Huez, ça ce sera pour le 14 juillet.
L'ascension de la planche des belles filles.
Oui. Oui, c'est un...
Je ne connaissais pas cet endroit.
Bon, très bien. L'Alpe d'Huez, ça sera le 14 juillet pour la fête nationale, vous connaissez.
Oui.
Bon, premier contre-la-montre, un contre-la-montre, pardon, de 40 km à Rocamadour, à la veille de l'arrivée, donc sur les Champs-Élysées, ça ce sera le 24 juillet. La météo, avec vous Peggy. Vous nous aviez prévenu, il faisait bien frais ce matin, ouais. Mais ça ira mieux forcément cet après-midi.
Et oui, 15 degrés Amandine cet après-midi à Lyon, de 0 ce matin à 9h, ça va remonter à 17 cet après-midi, 17 à Rouen également, ainsi qu'à Rennes, 18 à Brest, 19 à Limoges, 20 degrés à Agen et Montpellier, 21 à Marseille et Ajaccio. Côté ciel, bon bah tout va bien, hein. Pas grand-chose à signaler, c'est très ensoleillé sur l'ensemble du pays. Petit bémol tout de même le long de la frontière belge où ça reste encore nuageux. Et un ciel un peu plus variable sur les Alpes-Maritimes, mais ça reste beau. Et il y a un peu de vent en Corse.
Bon, et pour la suite, le week-end, il sera bien ?
Bien, oui, bien dans l'ensemble. Alors, même si le ciel sera plus nuageux au nord vendredi entre les côtes de la Manche et les frontières du nord-est, ailleurs, un ciel plus ou moins voilé, mais la pression restera belle. Samedi, ce sera plus nuageux au nord de la Loire et bien ensoleillé au sud. Il faudra bien profiter de la journée de dimanche qui sera belle avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest lundi, le tout sous des températures fraîches encore le matin et de saison l'après-midi.
Merci beaucoup, Peggy. La planche des belles filles, c'est dans les Vosges, hein, Pascal.
Vous faites bien de le préciser.
Non, mais on me le souffle.
Bien sûr. Merci à vous deux.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et Ludovic van de Kerckhoff, qui est notre rédacteur en chef bien-aimé, me précise bien sûr qu'on dit l'élection présidentielle et non pas les élections présidentielles. Alors Yann, et je rappelle que est resté en studio avec nous Monsieur Le Cerf, qui dirige BVA, et William Galibert. Yann, une question peut-être à notre sondeur BVA.
Bah écoutez, quelle est la fréquence des sondages qu'il va faire ? Quel est l'échantillon qu'il utilise ? Est-ce que c'est représentatif véritablement ?
Alors, vous avez 2 heures ? Non. mais merci de poser cette question. Alors, les sondages que l'on va faire... Il ne faut pas réduire les sondages qu'on va faire aux sondages d'intention de vote. C'est un premier élément qu'il faut avoir à l'esprit. Si vous suivez effectivement l'actualité politique, vous savez qu'au-delà de l'intention de vote, de ces intentions de vote, il y a beaucoup d'éléments que nous partageons, que nous réalisons d'ailleurs avec notre partenaire RTL. Mais sinon, pour les intentions de vote, on va être sur un rythme mensuel qui risque d'accélérer, dans la proximité du premier tour de l'élection présidentielle. Mais c'est vrai qu'il est important d'avoir à l'esprit de garder l'œil ouvert sur tout ce qui est fait autour de l'opinion. Les intentions de vote, on connaît leur fragilité. Vous posez la question de auprès de qui on réalise nos enquêtes. Bah, celle-ci, par exemple, 1500 personnes. Alors, c'est jamais assez, on pourrait toujours dire on a besoin d'en faire beaucoup plus. C'est vrai qu'on a une fiabilité plus importante, mais il faut multiplier par 4 la taille d'un échantillon pour diviser par 2 la marge d'erreur. Je rentre dans des choses un peu techniques, mais bon, 1500, ça commence à être solide. C'est vrai que la question qui se pose, et c'est un des éléments que tout le monde doit garder à l'esprit aujourd'hui, c'est que vous avez un Français sur 2, selon différentes hypothèses de ce corps électoral, qui dit « je ne suis pas sûr que je vais aller voter et je ne suis pas sûr de ce que je vais finalement voter ».
Yann, est-ce que vous savez pour qui vous allez voter ?
Écoutez, oui, je pense que je vais voter Zemmour. J'avais voté pour Macron aux dernières présidentielles.
Donc c'est une sorte de grand écart quand même de passer de Macron à Zemmour.
Il y a quand même un point commun, c'est que l'un et l'autre se réclamaient d'un renouveau en fait de la politique, d'un renouveau des programmes et des actions du pays. Et on l'a vu malheureusement.
C'est pas les mêmes idées, d'autant que le Macron de 2017 était même positionné peut-être plus à gauche que ne l'est le Macron de 2022. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose que je voulais vous demander. Pardonnez-moi, mais je suis victime de la clim. Est-ce que vous êtes influencé par les sondages ?
Alors, franchement, non. Je regarde ça avec curiosité, mais j'ai en mémoire, si vous voulez, Valéry Giscard d'Estaing en 81, Balladur, qui était donné à 52%. Vous rajoutez à ça Lionel Jospin, qui n'a pas passé le second tour.
François Fillon, qui n'est pas passé à 53%. Ma question, c'est quand on veut voter utile, est-ce que si on a le sentiment que celui pour qui on va voter n'a aucune chance de gagner, peut-être dans un match, par exemple, Zemmour-Le Pen, ça peut influencer. Si l'un a 5 ou 7 points d'avance sur l'autre, et qu'on veut que le camp national, par exemple, soit représenté au deuxième tour, il est possible que dans ces cas-là, le sondage influence celui qui va voter.
Écoutez, peut-être, ça pose la question, vous avez employé le mot vote utile. Moi, je crois qu'il y a deux types de vote. Il y a le vote utile et il y a le vote pour la France. Le vote utile, c'est celui des appareils, c'est celui, je dirais, des intérêts bien compris, avec toujours cette idée de faire que on soit dans une forme de conformisme, de tranquillité ou autre. Donc, pour moi, je crois que c'est plus le sujet. Et puis, il y a un paramètre quand même qui est très important, c'est le secret de l'isoloir. On ne sait jamais ce qui va se passer le jour même des élections. Et moi, c'est là-dessus que je compte.
William Galibert.
Je voulais juste rajouter un petit mot de mécanique sondage et sous le contrôle d'Edouard Le Cerf, mais tout à l'heure, Pascal, vous disiez les sondages, on n'y croit pas parce qu'on n'a pas soi-même été interrogé. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, on ne vous passe pas de coup de fil pour faire ces sondages, on ne vous arrête pas dans la rue non plus. Tout se fait en ligne, sur des questionnaires à remplir, et les panels sont des gens qui se sont inscrits sur des plateformes qui ont accepté de répondre à des questionnaires, et pour ça, ils sont gratifiés de quelques centimes d'euros ou de quelques bons d'achat.
On gagne pas sa vie avec ça.
Voilà. Ah oui, ils sont payés les...
On parle de centimes d'euros.
Oui,
hein,
voilà.
Et donc, ce sont des gens qui sont inscrits sur des plateformes. Donc, on ne va pas vous arrêter dans la rue ou vous n'aurez pas un coup de fil de BVA pour vous dire est-ce que vous avez une minute pour un sondage.
Vous avez déjà été sondé ?
Jamais.
on va marquer une première pause. Je salue Damien Béchiot. Vous avez déjà été sondé, Damien ?
Bonjour Pascal, jamais.
Pour de la politique ou pour autre chose,
jamais.
D'ailleurs.
Mais parce qu'il ne s'est pas inscrit sur une plateforme.
Tout à fait, William.
En disant je veux bien répondre à des questionnaires.
Eh bien, nous allons marquer une pause et puis garder encore quelques minutes, Monsieur Le Cerf, jusqu'à 13h17, je pense. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
J'ai parfois l'impression que le Éric Zemmour a remplacé le Covid. C'est-à-dire qu'on parlait que du Covid et maintenant on parle beaucoup d'Éric Zemmour. Alors Jean-Michel est avec nous qui est agriculteur. Bonjour Jean-Michel.
Oui, bonjour Pascal.
Vous avez écouté Marine Le Pen ce matin ?
Non.
Mais vous savez ce qu'elle a dit, sans doute, et que sa stratégie a un poil évolué, et notamment qu'elle a été extrêmement aimable, gentille, politiquement en tout cas, avec Éric Zemmour.
Oui, ça c'est pas nouveau. Ce qui m'a étonné, c'est qu'elle veuille raser toutes les éoliennes. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'elle puisse chiffrer. Mais non, Marine Le Pen, j'ai pas tellement besoin de l'écouter pour savoir ce qu'elle dit, parce que ce qu'elle dit ne me paraît pas à la fois constructif et même possible. Les éoliennes, par exemple.
Et vous êtes plutôt un électeur de droite ?
Oui.
Mais manifestement, vous n'êtes pas tenté par Marine Le Pen ?
Non. Vous savez, vous l'avez dit, je suis agriculteur. Alors, pour être franc, je ne suis plus agriculteur depuis 2 mois, puisque je suis à la retraite. Mais dans le milieu agricole, où pendant ces derniers temps, on a pas mal voté Front National, je me suis rendu compte que c'était pas un vote de conviction, que c'était un vote un peu de colère. Vous savez, on fout un coup de pied dans la fourmilière. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que le vote Front National, c'est un vote de conviction pour à peu près peut-être 30% des électeurs du Front National.
Et ben c'est intéressant parce qu'on a un sondeur, il va peut-être nous éclairer là-dessus. Est-ce qu'on arrive à partager vote de protestation de vote d'adhésion ? Monsieur Le Serf.
On peut poser la question aux électeurs qui, après qu'ils aient voté, ou avant, dans leurs intentions de vote, quels sont les éléments qui les motivent. Mais vous avez raison, je ne suis pas capable de donner de jauger au pourcentième près quelle est la proportion de ceux qui sont dans la colère et ceux qui sont dans la construction. C'est vrai qu'au départ, le vote Rassemblement National, le vote Front National, c'est un vote de contestation contre le système, contre l'établissement, et avec un certain nombre d'éléments qui motivent des électeurs. Mais c'est, on va dire, moitié-moitié, soyons un peu grossiers.
Jean-Michel, Éric Zemmour...
Oui, je ne prétends pas faire la leçon à Monsieur Le Serre. Hein. Mm. Les données que j'ai, c'est simplement en discutant avec des gens qui votent Front National, c'est pour ça, mais
Monsieur
Le Serre, je fais davantage confiance aux chiffres de Monsieur Le Serre, bien sûr.
Jean-Michel, Éric Zemmour, vous pensez qu'il va se présenter ?
Moi, je ne pense pas. C'est pas son rôle. Je pense que son rôle est davantage d'être un conseiller à l'image de, comment il s'appelait, Monsieur Kanzler pour François Hollande ou de Alain Minc pour Nicolas Sarkozy. Mm. Il a des idées, on va dire, qui sont des idées sur des, comment ça s'appelle, des faits de société. Il y a un autre terme. Mais reconnaissons quand même que, moi, j'ai entendu parler d'agriculture à l'émission sur à laquelle il participait sur CNews. Bon, dans des choses comme ça, très concrètes, plus terre à terre, il ne tient pas tellement la route quand même.
Bon, sur donc les, vous pensez sur, qu'il sur les sujets. Mais William Galibert, par exemple, est-ce que vous pensez que c'est possible d'être allé aussi loin aujourd'hui? C'est à l'intuition que je demande de répondre, peut-être,
pourquoi
plus que la rationalité,
allé, voilà,
pour être allé
aussi loin pour s'arrêter maintenant. On a l'impression quand même que le train est lancé de manière assez inexorable. En tout cas, six éléments pouvant empêcher une candidature, on imagine que ça serait d'ordre financier, pourquoi pas, pas assez de moyens pour mener une vraie campagne ou pas assez de troupes pour trouver les 500 signatures.
Les 500 signatures.
Mais à part des obstacles un peu techniques, je ne vois pas ce qui s'oppose à cette candidature désormais.
Je vais vous remercier tous les deux d'être restés un petit quart d'heure avec nous. Ce qui est intéressant, notre ami Jean-Michel est agriculteur et Monsieur Le Serf, est-ce qu'il y a encore un vote en fonction du métier? Est-ce que les agriculteurs, c'est comme on le disait jadis, plutôt à droite, les médecins c'est plutôt à droite, les ouvriers c'est Rassemblement National, etc., etc. Ou est-ce que tout ça est éclaté aujourd'hui?
Non. Alors c'est vrai qu'il y a plus de fluidité des électorats parce que les électorats changent plus souvent d'avis, ils ont des offres politiques qui elles-mêmes sont en rupture. Mais c'est vrai qu'il y a encore quelques fondamentaux sur... Regardez, la manière dont on analyse les résultats d'une élection, on regarde toujours effectivement le sexe, l'âge et la profession, ce qu'on appelle le chef de famille, c'est un terme qui est un peu désuet d'ailleurs. Mais en tout cas, on regarde la profession. Oui, il y a encore des éléments qui sont structurants à cause de l'histoire, à cause de...
Les profs, c'est plutôt à gauche.
En général, on va dire que les fonctionnaires ont plutôt, en tout cas pour les profs, qui est une partie importante des fonctionnaires, c'est plutôt à gauche. Oui, il y a encore des fondamentaux. Ils ne sont pas suffisamment nombreux dans nos échantillons pour vous répondre. Et à mon avis, ils sont assez réfractaires. Ils viennent poser des questions, y répondre, c'est moins souvent le cas.
Bon, il est 13h17. Merci à William Galibert. Merci à Édouard Le Serf. Et puis on va continuer avec les auditeurs, bien sûr, à parler de sondages, de politique, mais également des autres sujets. J'ai vu qu'on mange davantage de mozzarella désormais que de camembert, figurez-vous. Ça, c'est quand même un sujet essentiel. On pourra évoquer également les éoliennes, justement. Marine Le Pen qui veut les supprimer, si vous voulez réagir. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Plus. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Marine Le Pen était l'invitée ce matin sur RTL du petit déjeuner de campagne. Un duel au second tour contre Emmanuel Macron est-il toujours aussi évident? Quelle place peut prendre Éric Zemmour dans cette élection présidentielle? Ce matin sur RTL, Marcelin, auditeur de Vendée, a interrogé la candidate du Rassemblement National.
Envisagez-vous une alliance avec M. Zemmour? Serait-il un bon Premier ministre?
Moi, je ne souhaite pas que la candidature d'Éric soit uniquement une division, en réalité, de notre capacité à gagner cette élection présidentielle. Un bon Premier ministre, mais je pense qu'il n'a pas du tout envie d'être Premier ministre. Je ne vous le cache pas. Peut-être ça suscitera une question, d'ailleurs, de la part des journalistes, mais je ne crois pas du tout qu'il souhaite être Premier ministre. Je crois que pour l'instant, il n'est peut-être pas en capacité d'entendre ce que j'ai à lui dire, mais on va attendre un peu, c'est pas grave. Moi, je suis quelqu'un de patient. Donc.
Si les candidats Éric Zemmour peut-il accéder au second tour et devancer Marine Le Pen? Souhaitez-vous une alliance? 32-10, 3-2-1-0.
À 13h21, chanson.
Allez hop, tout le monde à la campagne. Allez hop, le soleil nous attend.
Ah là là, vous nous rajeunissez là, cher ami. C'est qui chantait ça?
Charlotte Julien.
Charlotte Julien. Quelle année, 74, 75?
Sûrement.
Un petit peu avant.
Ça avait été un tube, hein. Et pourquoi? Parce que les Parisiens quittent la ville. Donc si vous aussi, vous quittez la ville et que vous voulez chanter avec Charlotte Julien, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Bonjour à toute l'équipe.
Vous habitez à la campagne vous-même ou à la ville?
J'ai été élevé à la campagne, mais maintenant j'habite une petite ville qui s'appelle Beauvais, dans l'Oise. Voilà, donc c'est pas encore une grande agglomération comme la région, comme Paris ou autre, mais voilà, c'est la ville, c'est la ville.
Et donc, alors, vous nous appelez pour parler politique, plus que pour parler la ville.
Oui, 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 parce que, mais moi, si j'avais la possibilité de retrouver un petit logement pas très loin de mon travail à la campagne, ça serait tout de suite, ça, je dirais oui, tout de suite. Voilà.
Est-ce que vous avez déjà fait votre choix pour la présidentielle, Jean-Pierre? Puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler de politique.
Oui, alors oui, j'ai fait mon choix, et sans avoir besoin des sondages, parce que les sondages, pour moi, ils vont se tromper. Mon choix, ça sera en premier lieu, M. Florian Philippot, avec les Patriotes, s'il obtient les 500 parrainages, bien évidemment. Sinon, je ne vais pas vous surprendre, ça sera M. Éric Zemmour, voilà.
Et pourquoi davantage Éric Zemmour, par exemple, que Marine Le Pen?
Parce que moi, je pense que Marine Le Pen est le problème du Front National, enfin du Rassemblement National, pardon. Marine Le Pen et la famille Le Pen sont usés, sont assez fatigués. Les gens ont ras-le-bol d'entendre parler d'eux. Ils
c'est
ont
vrai aussi pour Marion Maréchal, par exemple, si elle revenait en politique?
Alors, ça, c'est encore non. Non, parce que... Moi, je dirais non. Elle représente la jeunesse et elle essaye de s'écarter, justement. Elle essaye de ne plus qu'il y ait forcément le nom Le Pen avec elle, même si on le sait. Les gens ont besoin de changement. Les gens ont envie de changement. Voilà, c'est ça. Ils ne veulent pas du duel qu'on veut nous promettre Monsieur Macron. Monsieur Macron, Madame Marine
Mais
Le
vous
Pen.
Vous avez raison de dire monsieur, de toute façon, parce que ça montre que vous êtes civil et que le débat d'idées peut exister dans la courtoisie.
Voilà, je vais vous dire pourquoi je veux y être, par la courtoisie, par rapport à vous, par rapport aux Français, aux Françaises, par rapport à ces gens-là, mais pas personnellement par rapport à lui.
Parce que qu'est-ce que vous lui reprochez?
De pas aimer la France, de pas aimer les Français, de pas les aimer, tout simplement, voilà.
Vous trouvez qu'il ne vous aime pas?
Il ne nous aime pas. Il a jamais les frais. Parce que tous ces petits mots, ces petites phrases qu'il donne à longueur d'année, à longueur d'interview,
Par exemple, qu'est-ce qui vous a choqué dans les phrases qu'il a dites depuis 2017?
Depuis 2017, il en a tellement dit. Par exemple, quand il demande aux gens de traverser la route, ou quand... qu'est-ce qu'il a dit encore récemment? Enfin, il en a tellement dit que... Voilà,
donc vous avez ce sentiment qu'il est loin de vous, qu'il ne vous comprend pas, qu'il ne vous aime pas. Vous êtes chauffeur-livreur. C'est intéressant de voir le parcours politique. Vous avez voté la première fois peut-être en 88?
Tout à fait. Ouais.
Au départ, vous étiez un électeur de quel camp, si j'ose dire?
Alors, quand j'ai commencé à voter, je n'avais pas forcément de camp. D'accord. Ensuite, j'ai fait un court passage de 2-3 ans au MNR avec M. Maigret, mais j'ai rejoint très très vite l'UMP. Avec Monsieur Sarkozy, j'étais un ancien sarkoziste. Je suis resté pendant une dizaine d'années au LR aussi, à laquelle j'ai quitté parce que j'en avais un petit peu ras-le-bol, comme beaucoup de Français, de la guerre des chefs, de la guerre des égaux des chefs. Donc au bout d'un moment, je suis un peu écarté et je me suis un petit peu plus intéressé à ce moment-là au programme ou du moins ce que les candidats proposaient. Et moi, mon orientation politique qui est à droite, la vraie droite, la droite dure, pas l'extrême droite, je dis bien la droite dure, je me suis rapproché de M. Nicolas Dupont-Aignan, parce que moi je me sens plus souverainiste, patriote, que qu'autre chose. D'ailleurs, j'étais un ex-cadre de Boule à France.
Jean-Pierre, par exemple, si demain vos idées sont au pouvoir, quelles sont les deux ou trois premières mesures que vous voudriez voir adopter immédiatement?
Mais la mise en place de la démocratie citoyenne, en consultant un petit peu plus les Français sur les grands sujets d'actualité ou des grands projets
via, par exemple, le référendum, qu'on pose davantage de questions. Par exemple, Marine Le Pen, ce matin, parler des éoliennes. Vous pourriez imaginer que le peuple soit sollicité. Est-ce que vous souhaitez arrêter l'énergie éolienne ou pas, par exemple ?
Voilà, par exemple.
Ces questions-là, très simples d'ailleurs, pas des questions, de multiplier ce genre de questions.
Voilà, par exemple, quand vous parlez des éoliennes, c'est par exemple quand aujourd'hui, moi je prends le cas notamment du côté du Tréport, dans la Manche, parce que je connais plus cette actualité-là, où ils veulent mettre des éoliennes supplémentaires en mer, par exemple, ou dans certains autres secteurs, c'est de tenir compte de l'avis de la population, des acteurs principaux. Alors quand j'appelle les acteurs principaux, c'est surtout les professionnels, notamment de la mer et autres, par exemple, pour ce cas-là, c'est de leur demander et tenir compte de leur avis. C'est-à-dire que si la population dit non, c'est non. Pas faire comme on a fait avec, je vais revenir là-dessus, mais avec, la consultation...
De 2005 même l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Voilà, par exemple, pour le Frexit, où la population avait quand même voté à un peu plus de 54% non, et ça n'a pas empêché quand même à M. Sarkozy, et c'est là que j'ai commencé à dévier un petit peu de lui, parce que j'étais un petit peu écœuré, c'est qu'il n'a pas quand même, il n'a pas tenu compte de ce que les Français avaient voté. Et voilà, donc voilà, comment voulez-vous que les Français aillent de nouveau voter quand vous avez ce genre d'attitude? Bah écoutez, c'est pas grave, tant pis, on s'en moque. C'est comme ce qui se passe à l'Assemblée. Quand vous voyez qu'à l'Assemblée nationale, que bien la majorité, si la majorité voit qu'elle est en grande difficulté, qu'est-ce qu'elle fait ?
49-3.
Voilà, 49-3, où elle passe par différents trucs, différents domaines. Voilà,
Jean-Pierre, souvent je dis que cette émission est formidable. Et Damien Béchiot qui la réalise, je suis sûr que comme moi, il adore écouter les témoignages. Qu'est-ce que vous nous dites ? Mais vous n'êtes pas le seul. Vous nous dites qu'au fond, vous n'êtes pas assez impliqué dans les décisions du pays. Et j'ai envie de dire combien ça s'entend. C'est vrai que longtemps, la démocratie représentative était la règle, parce que techniquement, c'était difficile de faire autrement. Mais aujourd'hui, il y a une demande très forte que les Français soient interrogés sur beaucoup de sujets. Alors, c'est ce qui se passe en Suisse, parfois, sur des sujets, j'ai envie de dire, du quotidien, pas forcément des sujets existentiels, et ou en tout cas des sujets politiques de première importance. Donc ça, c'est intéressant, puisque ça revient tous les jours, hein, n'est-ce pas, Damien ? Tous les jours, on entend ça.
Vous avez complètement raison,
Pascal. Donc c'est intéressant d'écouter Jean-Pierre. Et comment, techniquement, les démocraties peuvent-elles répondre à cela ? Ben, ça sera peut-être l'enjeu de ces prochaines années. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
Marine Le Pen était l'invitée ce matin sur RTL du petit déjeuner de campagne. Avez-vous été séduit par son discours, ses propos ? En tout cas, la candidate du RN à la présidentielle est convaincue d'une chose.
Je suis convaincue d'être la mieux placée et permettez-moi de vous dire que la valse des sondages et encore une fois la course des petits chevaux qui amuse énormément les journalistes aujourd'hui à 6 mois de la présidentielle ne veut pas dire grand-chose. Je peux et je vais gagner cette élection présidentielle.
Alors justement, selon notre dernier sondage BVA, Emmanuel Macron reste le favori. Derrière, avec 16,5% d'intention de vote, Marine Le Pen devancerait de justesse Éric Zemmour avec environ 13,5%. Qui, à votre avis, sera au second tour de la présidentielle ? 32-10, 3-2-1-0.
Ben on va poser la question à Lionel. Bonjour Lionel.
Bonjour Pascal.
Lionel, qui sera, à votre avis, au deuxième tour de la présidentielle ?
Bah, si Monsieur Zemmour se présente, je pense que ça sera Zemmour et malheureusement Macron.
Et qu'est-ce qui vous fait dire que ce sera davantage Éric Zemmour que Marine Le Pen ?
Parce que c'est nouveau. C'est tout nouveau, c'est nouveau. C'est nouveau et puis voilà quoi, je veux dire, comme c'est nouveau, et il parle, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui parle bien, c'est quelqu'un qui est franc et tout ça, et ben moi je pense que si ce monsieur se présente, il sera au deuxième tour. S'il ne se présente pas, je vote Le Pen, ça c'est sûr.
Ah oui, donc si il se présente, manifestement, vous votez pour Éric Zemmour.
Oui, sauf s'il y aurait eu Marion Maréchal Le Pen. Là, c'était différent.
Et autrement, votre voix ira donc à Marine Le Pen.
Alors, s'il ne se présente pas, ma voix ira chez Marine Le Pen, ça c'est sûr.
Vous êtes un électeur de Marine Le Pen depuis de nombreuses années ?
Non.
Avant, vous votiez pour qui ?
La seule fois que j'ai voté, c'était pour M. Sarkozy.
Vous avez 53 ans quand même, vous n'avez voté qu'une fois ?
Ouais, j'ai voté qu'une fois.
En 2007 ?
En 2007.
Pour la présidentielle.
Pour la présidentielle de M. Sarkozy, parce que...
Vous n'avez jamais voté Chirac.
Oh non, 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 non.
Vous dites non, non, comme si c'était...
Non, 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 non,
non. Non, mais c'est pas infamant de voter Jacques Chirac, quand même.
Bah, excusez-moi, monsieur Pro, Jacques Chirac, il était combien, 14 ans président? Et qu'est-ce qu'il a fait?
Il a été 12 ans, en fait, il a fait 7 plus 5.
Oui, 7 plus 5, oui. Qu'est-ce qu'il a fait aux Français pour que la vie s'améliore? Une chose, dites-moi une chose qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait?
Bah, il a tenté de faire au mieux.
Ah, il a tenté. Mmh. Voilà, il a tenté, mais il a rien fait.
Non mais à brûle.
Il a supprimé l'armée. Il a supprimé.
À brûle pour point. À brûle pour point. Il y a des choses qui ont été faites qui sont à mettre à son crédit.
Pourtant, je pense que M. Mitterrand était quand même beaucoup mieux que M. Chirac. Il a fait quand même beaucoup plus de choses. Même si son deuxième quinquennat n'a pas été terrible, mais il a quand même fait évoluer quand même la France dans le bon sens. Là, maintenant, on n'est plus rien maintenant.
Jacques Chirac, c'est une certaine idée de la proximité, du contact humain, de garder une forme de gaullisme social, d'essayer de trouver un équilibre justement entre la droite dure ou la droite conservatrice et puis une droite plus souple ou plus libérale. Il y a eu beaucoup de privatisations sous Jacques Chirac. Ouais, il y a eu d'abord il a été 5 ans avec Jospin, ne l'oubliez pas non plus. Donc c'était pas lui à ce moment-là qui pouvait gouverner. En politique étrangère, il y a également un défi à l'Amérique qui a été proposé au moment de la guerre en Irak, puisque nous n'y étions pas. Vous voyez, il y a quand même des choses.
Oui, mais enfin, bon, c'est pas ça qui a porté ma viande dans mon assiette, hein, ouais. Je veux dire.
Et puis, il y a cette phrase sur l'écologie. Notre maison brûle et je regarde ailleurs et nous regardons ailleurs.
Oui,
Vous me dites qu'est-ce qu'a fait Chirac? J'essaye de vous répondre.
Oui, oui, mais enfin, de toute façon, maintenant, on peut pas avoir plus pire. Que monsieur Macron, je précise.
Ça m'intéresse. Pourquoi? Qu'est-ce que vous reprochez à Emmanuel Macron?
Ben rien justement, je veux dire.
Vous lui reprochez rien ?
C'est que si, mais je veux dire, c'est pour moi le pire quinquennat. Il a fait. Il a fait quoi pour améliorer la vie des Français ?
Ben, par exemple, le nombre de chômeurs baisse aujourd'hui.
Oui, c'est grâce à Macron, bien sûr.
Je sais pas. J'essaye toujours de me faire un peu l'avocat du diable. Je vous dis pas que c'est ce que je pense.
Ouais, mais vous le faites très bien en plus. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que.
Donc il n'y a rien de positif chez Emmanuel. Par exemple, la gestion de la pandémie, vous trouvez qu'elle n'a pas été.
Non. Écoutez, je vous ai écouté tous les jours et vous n'allez pas me dire qu'au contraire, que même vous, c'était la pire. Et maintenant, on le prend pour Dieu. Oh, c'est grâce à lui que les gens sont sauvés et tout ça. C'était la pire. On s'était passé pour des guignols. Je veux dire, avant, dites-vous bien, monsieur, on était les numéros 1 en tout, quasiment. En technologie, en science, maintenant, on est zéro.
C'est vrai qu'on n'a pas eu de vaccin. Bon, Lionel, ce que je vous propose, restez avec nous quelques secondes. Est-ce que vous nous écoutez tous les jours, Lionel?
Ah, moi, je vous adore.
Bon, ben, c'est gentil, donc vous avez...
Il n'y a pas longtemps que je vous regarde, ouais.
Donc vous êtes habitué désormais à notre ami de Facebook, notre ami Olivier, qu'on appelle une ou deux fois dans la journée.
Bien sûr.
Et c'est un jeune qu'il faut, mettre le pied à l'étrier à la jeunesse.
Ah, et maintenant, à coup de pied au cul maintenant. Hein.
Bah non. Lionel, je vais pas mettre un coup de pied au cul, comme vous dites, à monsieur Olivier.
Ah, mais maintenant, c'est malheureux, mais la jeunesse, c'est comme ça.
Ah, bah attendez, Lionel, j'espère pas quand même.
Mais vous avez des enfants, Lionel?
Ah, mais je suis grand-père même. Donc,
à 51 ans, vous êtes grand-père?
Oui.
Allez, non, on perd pas de temps dans notre famille, hein.
Ah, j'ai commencé jeune. Oui, c'est pour ça que j'étais vite indépendant jeune. Pourtant, j'avais une bonne situation. J'avais des parents très riches, aisés et tout ça. Mais je veux dire, j'ai commencé très jeune.
Bon. Et quel âge il a, le petit fils ou la petite fille?
Alors, j'ai le petit dernier qui a 16 ans, 18 ans. Et j'ai une fille qui a 33 ans.
Ah oui, d'accord. Mais vous n'êtes pas grand-père d'un enfant qui a 16 ans?
Non.
À 53 ans, ça m'étonnait. J'avais dit 51, 53. Bon, Olivier, comment allez-vous, monsieur Olivier?
Très bien, et vous m'y
avez vu, je suis gentil avec vous par rapport à ce que demande monsieur Lionel. Jamais ça dans la maison RTL.
Mais ravi de la contribution que j'apporte à l'émission. Ils veulent me mettre des coups de pied au derrière. C'est quand même pas incroyable, hein, Pascal.
Bon, sur nos réseaux sociaux, Marie-Paul nous écrit « Ce n'est même plus la peine d'aller voter à vous écouter avec ce type de sondage. Les élections sont déjà jouées. Selon Franck, à cause des abstentions, ces prévisions vont être complètement chamboulées. » Et Antoinette, pour terminer, nous dit « Je pense que Éric Zemmour ne se présentera finalement pas. Donc ça va changer beaucoup de choses. » Pardon, j'ai la voix cassée, Pascal.
Oui, bah c'est joli, Antoinette. Comme
oui,
prénom.
Très joli.
Ah, c'est un très, prénom très joli. Qui revient un peu à la mode.
Je le donnerai à ma fille.
Bah, et je vous le souhaite, en
merci.
Tout cas. Est-ce qu'on peut réécouter cette chanson magnifique que j'ai aimée tout à l'heure ? Allez hop, tout le monde.
On serait tous ces animaux avec des
je ne sais pas ce que devient Charlotte Julien. Elle avait une petite, un petit succès dans les années 70. On la voyait arriver. Je suis une, elle avait chanté « Je suis une fleur de province ».
On pourra la trouver si vous voulez aussi, Pascal.
Allez hop, tout le monde à la campagne. Allez hop. Vous ne vous souvenez pas de cette chanson « Je suis une fleur de province » ?
Pas du tout.
Oh. Mais vous savez, c'était un petit succès. « Je suis une fleur de province ». 13h40, à tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Comme jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Voilà, Charlotte Julien.
On a envie de la chanter.
Ma valise, car pour moi, c'est Paris, la terre promise.
Ah, je préfère que vous faites aller hop tous à la campagne quand même. Hein.
C'est voilà, Charlotte Julien. Je ne sais pas ce qu'elle devient. Je l'ai dit déjà, je crois.
Oui.
Bon, que nous dites-vous, ami ?
Alors, ce sont des propos qui font réagir depuis ce matin. Ceux de Philippe Poutou, le candidat du nouveau parti anticapitaliste à la présidentielle. Il réagissait hier chez nos confrères d'info à cette vidéo du conseil municipal de Cachan dans le Val-de-Marne. Vous savez, où un élu de la France insoumise affirmait que le but de la police était de protéger la population, pas nécessairement de posséder des armes pour la tuer. La réaction de Philippe Poutou.
Mais la police tue, évidemment, la police tue. Je crois que il faudrait voir les chiffres précisément, mais dans les quartiers populaires, c'est une quinzaine de jeunes qui sont tués par la police annuellement. Mais la police tue, elle a tué, elle tue. Alors après, on peut discuter assassinat, meurtre, ou accident, ou bavure.
Ou légitime défense.
Hein, ou légitime défense, bien sûr. La police tue, oui, mais la police surtout mutile. Combien de mains arrachées, combien de visages défigurés, combien de gens après derrière en garde à vue alors qu'ils n'ont rien fait. Bon, il y a une véritable violence policière, oui, et il y a une police qui peut tuer parce qu'en fait, elle est armée, surarmée, et elle est dangereuse.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réagi sur Twitter. Il parle de propos insultants, indignes d'un élu de la République. Gérald Darmanin va déposer plainte. Alors, pourquoi y a-t-il une haine anti-flic en France, hein ? Comment l'expliquer ? 3210, 3210.
C'est terrible d'entendre ça, parce qu'il est candidat à l'élection présidentielle. On peut évidemment avoir un débat d'idées, mais stigmatiser comme ça toute une population et ces policiers qui sont sur le terrain, qui se font insulter chaque jour parfois, qui font un métier difficile, qui sont molestés parfois et davantage. On se souvient de ceux qui avaient été brûlés vifs dans une voiture. Je trouve incroyable cette atmosphère qui peut exister aujourd'hui. Il me semble qu'elle n'existait pas comme ça dans les années 70 ou 80, où des responsables politiques, en l'occurrence M. Poutou, se permettent des choses qui déchirent, pour le coup, le tissu social. Cyril est avec nous pour intervenir sur les 5 mois de prison avec sursis probatoire. C'est la condamnation du lycéen de Comblaville en Seine-et-Marne après avoir projeté violemment au sol son enseignante. Vous avez sans doute vu ces images sur les réseaux sociaux. Ça avait été repris largement par les médias. Et nous sommes avec un proviseur de lycée dans le Loiret. Est-ce que vous trouvez que c'est une sanction juste ? Bonjour. Ah,
bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs. Alors, sanction juste, peut-être pas assez significative par rapport aux faits qui ont été commis, de violence sur une personne détentrice d'une autorité et qui semble banaliser la violence. Voilà, moi je suis...
Qu'est-ce que vous auriez aimé ?
Oh, j'aurais rien aimé, Pascal, parce que je pense que...
Si vous trouvez que c'est trop faible, peut-être que vous avez un avis.
Oui, mais enfin, je ne sais pas si la prison va résoudre quelque chose, mais il faut que ce jeune soit sanctionné plus fort, répare ses faits, parce que j'ai l'impression qu'on banalise la violence à tous les étages dans notre société, et ça devient grave. Qu'est-ce qu'on a loupé de l'éducation de nos jeunes pour qu'ils en arrivent à, par contrariété, si j'ai bien compris, ce jeune écoutait de la musique avec ses écouteurs, le masque sous le nez, donc ne respectait aucune règle qu'il connaît par cœur. professeur, il est en lycée professionnel. Depuis le CP, il connaît les règles que l'on attend de lui en termes de posture, de langage, d'attitude dans un établissement scolaire, quel qu'il soit. Et on en arrive à ça. Alors, je ne sais pas s'il y a... On se prend pour ce que l'on n'est pas, parce que pour qu'on en arrive à des faits de violence, projeter quelqu'un au sol, c'est quand même voilà.
Mais c'est sinon quotidien, c'est régulier. C'est sinon quotidien, du moins régulier. On sait bien qu'aujourd'hui, les professeurs sont mis en difficulté dans leur enseignement, sont contestés, sont chahutés, sont molestés.
Oui,
et je ne sais pas si c'est tous les jours, je n'ai pas de statistiques à vous donner, mais beaucoup de témoignages vont dans ce sens-là.
Mais je crois qu'il faut retrouver l'exigence, l'autorité expliquée, construite, légitime. C'est pas dominer quelqu'un pour faire en sorte qu'il soit comme on veut qu'il soit, c'est qu'il intègre les codes sociaux. Moi, je suis très attaché aux compétences psychosociales, puisque le point d'aboutissement de notre formation à l'école, c'est d'être autonome, libre, se débrouiller par soi-même, etc. Enfin, la transmission se fait par des exigences. Moi, j'ai quelques élèves qui parlent mal, mais je les reprends quand j'entends genre dans la phrase ou ok quand on me
répond. Ah, genre, ça, c'est horrible.
Ah oui,
mais
c'est
ça, horrible. C'est parce qu'on a tous des ados parfois, quoi. Beaucoup ont des ados à la maison. Mmh. Et bonjour, genre, je vais ce soir au cinéma, genre, je me suis...
au lieu de dire oui, monsieur, mais je ne suis qu'un proviseur parmi d'autres dans cette humble humanité. Mmh. Je ne suis rien de plus que mes collègues. Simplement, dans une institution qui transmet des valeurs telles que notre éducation nationale le fait depuis qu'elle existe, je crois qu'il faut qu'on retrouve cette exigence et qu'on ne cède rien sur ses comportements. Parce que, bon, le conseil de discipline va être convoqué, etc. Mais quid de ce jeune qui croit que tout lui est permis. Donc, quand est-ce qu'il a été arrêté dans sa vie pour qu'on lui dise non, tu ne peux pas faire?
Et il avait beaucoup d'antécédents en plus.
Oui, mais c'est ça qui est grave, Pascal.
Anna va être avec nous dans une seconde. On marque une pause. Merci beaucoup, Cyril, et bon courage dans le Loiret. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RFR.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent.
C'est l'heure des informations.
Non essentielles.
Non essentielles.
Et j'ai l'impression qu'on s'amuse bien en ce moment au Conseil de Paris, comme cet échange hier entre la maire Anne Hidalgo et l'élu de la France Insoumise, Daniel Simonet.
Je n'ai que 3 minutes pour intervenir sur 17 délibérations, donc attention, le délit va être...
C'est votre poids électoral.
Madame, allez. Vous parlez du vote prochainement.
Ah, et sinon, entre Yann Brossa et les communistes et Rachida Dati des Républicains.
Madame Dati, c'est moi qui parle. Et en l'occurrence, même quand j'étais prof à Sarcelles, les élèves se taisaient. Donc vous allez faire pareil.
Belle ambiance au sein de la classe politique.
Et oui, en plus, c'est étonnant de dire à Madame Dati, quand j'étais prof à Sarcelles, je me demande s'il n'y a pas un sous-texte là-dedans qui m'a étonné de la part d'un élu communiste.
J'ai pas eu la traduction.
Hein, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Même quand j'étais prof à Sarcelles, à Madame Dati, ça veut dire qu'est-ce qu'il veut dire, Monsieur Yann Brossa. Anna, nous terminons avec vous le sujet Comblaville. Vous êtes avocate, la condamnation plus exactement, du lycéen, 5 mois de prison avec sursis probatoire, alors qu'il avait projeté violemment au sol son enseignante. Qu'en pensez-vous?
Vous savez à quoi ça me fait penser d'abord? Bonjour Pascal.
Bonjour.
Vous savez, des fois, il y a des enfants, quand ils ont mal quelque part, les parents, pour avoir la paix, ils leur donnent un bonbon en leur faisant croire que c'est un médicament. Alors, c'est un peu ça, ça me fait penser un peu à ça, en fait. Je vous explique. Cette vidéo, elle est sortie. Donc, il n'y avait pas d'autre choix que de le présenter à la justice. Mais des faits comme ça, visiblement, il y en a plus que de raisons et plus que ce qu'on pourrait compter. Et ceux-là, ils sont pas du tout punis. Et là, en fait, on avait un peu l'obligation de le mettre devant la justice. Alors, on lui a donné une petite sanction. 5 mois probatoire, ça veut dire quoi? Qu'au bout de 2 ans, dans le délai de 2 ans, ça veut dire que s'il fait quelque chose, ces 5 mois se commutent en peine ferme.
Ok. Plus la nouvelle sanction.
Sachant qu'en France, une peine en dessous de 2 ans n'est pas effectuée. C'est quoi ça?
Mais alors, qu'est-ce que vous auriez aimé faire? Parce que j'entends tout ce que vous dites,
Il n'a même pas présenté d'excuses.
C'est vrai.
Mais
il a regretté son geste et il n'a pas présenté d'excuses.
Pourquoi?
C'est une nuance.
Parce que c'est c'est une professeure ou c'est parce que c'est une femme, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, visiblement, la honte pour lui, c'est de présenter des excuses. Et comme ça a tourné partout et que tout le monde va prendre en exemple cette espèce de crétin, excusez-moi, il n'y a pas d'autre terme, mais quand j'ai vu voltiger la professeure, j'étais sidérée, elle est partie comme un boulet, quoi. On aurait dit, vous savez, c'est ces personnes qu'on mettait dans les canons, dans les foires avant, et qui faisaient des trajectoires de fou. Et ça choque personne ou quoi?
Ah si, ça choque beaucoup de gens.
Mais en tout cas, moi, ça me choque.
Mais le juge,
ils ont dit, bon, bah alors, politiquement, faut satisfaire, faut quand même le...
Mais qu'est-ce que vous auriez aimé, par exemple?
Mais j'aurais fait tourner un clip en disant, je m'excuse, que j'ai fait, c'est pas bien, je m'excuse auprès de cette professeure.
Ouais, mais ça c'est pas possible, c'est pas dans l'arsenal judiciaire, ça,
faire... Mais alors, on fait pas des publications, on demande parfois des publications de certaines décisions judiciaire. On lui aurait demandé de faire des excuses qu'on aurait mis exactement de la même façon.
On peut demander de faire des excuses, vous qui êtes avocate, que ce soit enregistré, que ça tourne sur les réseaux.
En tout cas, il aurait dû faire des excuses publiques.
Mais il l'a pas fait.
Mais c'est la première peine à laquelle on aurait dû le condamner.
Et j'entends ce que vous dites. En plus, je partage ça, mais je suis un peu démuni parce que je sais que si on le met en prison, ça sert à rien non plus.
Mais il faut l'extraire de son milieu, faut l'extraire de son milieu, faut l'enlever de sa famille, puisque visiblement, elle n'a pas été capable en tout cas, puisqu'on n'arrive pas à 18 ans comme ça. Quand on a été suivi et quand on a des enfants, on sait que ça demande beaucoup d'investissement. Moi, je travaille énormément. Je suis mes enfants, ça n'empêche que je les suis, d'accord. Et quand on peut pas les suivre en France, il y a des organismes qui aident. Qu'est-ce qu'il veut ce garçon? En fait, il a l'école, il pour l'instruction.
En tout cas, il a sans doute rien à faire à l'école, Anna. Merci d'être intervenu. Il est 13h56, c'est l'heure à laquelle notre ami Jean-Alphonse Richard, vous reconnaissez cet indicatif musical, arrive. Pour chaque jour, nous donner le programme du jour.
Bonjour Pascal.
Bonjour, bonjour.
Aujourd'hui, dans l'heure du crime, on va revenir sur l'anesthésiste de Besançon, le docteur Frédéric Péchier. Est-il un tueur en série? On peut tout simplement se poser la question parce que il est accusé aujourd'hui de 24 empoisonnements, 10 morts. Il a tenté de se suicider.
Oui, c'est ça, il a tenté il y a quelques jours. On sait comment il va d'ailleurs. Il s'est défenestré.
Oui, exactement, du premier étage chez ses parents. Son pronostic vital était engagé et il ne l'est plus aujourd'hui. Donc je pense qu'il va mieux. On va avoir de ses nouvelles d'ailleurs avec son avocat qu'on reçoit dans l'heure du crime, Maître Schwerdorfer, qui va nous raconter tout ça. Mais c'est un dossier techniquement très compliqué, hein, c'est un dossier médical, mais qui demande des réponses désormais rapides parce que les victimes attendent, elles sont très nombreuses et on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé dans cette clinique de Besançon.
À tout à l'heure, cher Jean-Alphonse, Agnès Bonfillon est arrivée dans le studio. Le flash de 14h, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Participez au débat en appelant le 3210.
50 centimes.
Il est 14h. Le flash avec Agnès Bonfillon.
L'attaque à l'arc en Norvège hier a les apparences d'un acte terroriste selon les services de sécurité. Le niveau d'alerte pour l'instant n'a pas été relevé dans le pays. Le suspect arrêté après avoir tué 5 personnes à l'aide de flèches et de nationalité danoise. Âgé de 37 ans, il s'est récemment converti à l'islam. Et surtout, la police avait déjà eu des soupçons de radicalisation le concernant. Le bilan s'alourdit encore au Liban. Au moins 6 personnes sont mortes, 30 autres blessées dans une manifestation ce matin à Beyrouth. Manifestation pour demander le limogeage du juge chargé d'enquêter sur l'explosion dans le port de la capitale en août 2020. Une traque un peu particulière dans le Pas-de-Calais. Les gendarmes sont à la recherche d'un grand félin près d'Auxy-le-Château. Une vingtaine de militaires ont aperçu la bête après le signalement d'une habitante. Aucun zoo ni cirque n'est établi dans la région. Les autorités envisagent plutôt l'hypothèse d'un nouvel animal de compagnie non déclaré. Cette fois, c'est définitif. Le Sénat adopte à son tour une proposition de loi qui prévoit qu'aucun match de football professionnel ne soit plus joué le 5 mai en hommage aux victimes de la catastrophe de Furiani qui avait fait, je vous le rappelle, en 1992, 19 morts. Les fans du Tour de France en salivent d'avance. La présentation des différentes étapes a eu lieu ce matin. Départ de Copenhague au Danemark le 1er juillet, arrivé le 24 sur les Champs-Élysées. Et entre les deux, le col du Granon qui n'a été escaladé qu'une seule fois dans l'histoire du Tour, c'était en 1986. Et ce ne sera pas le seul clin d'œil à cette fameuse édition. Le retour de l'Alpe d'Huez le 14 juillet aussi, ou encore une séquence de pavés dans l'enfer du Nord. La météo, le soleil sera encore généreux pour tout le monde cet après-midi, mais demain on revient à une carte de France coupée en deux. Ce sera beaucoup plus nuageux dans la moitié nord, avec même quelques bruines possibles dans le nord-est en fin de journée. Le ciel restera plus ensoleillé dans la moitié sud, avec des brouillards matinaux vite dissipés et un voile nuageux dans le sud-ouest. Les courses viennent de se terminer à Longchamp. Pour le prix Carus, il fallait jouer le 8, le 5, le 9, le 12 et le 7. Le 8, le 5, le 9, le 12 et le 7. Il est 14h02 sur RTL. La suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Praud.
Merci Agnès.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Fabrice est avec nous. Bonjour Fabrice.
Bonjour Pascal Praud.
Vous allez réagir au propos de Monsieur Poutou. On peut peut-être les réécouter d'ailleurs, ces propos d'Amien Béchiot, parce que c'est vrai qu'ils sont choquants. D'ailleurs, le ministre Darmanin a décidé de porter plainte. La police tue, dit-il, et je pense qu'on va les écouter.
Mais la police tue, évidemment, la police tue. Je crois qu'il faudrait voir les chiffres précisément, mais dans les quartiers populaires, c'est une quinzaine de jeunes qui sont tués par la police annuellement. Mais la police tue, elle a tué, elle tue. Alors après, on peut discuter assassinat, meurtre, ou accident, ou bavure.
Ou légitime défense.
Ou légitime défense, bien sûr. La police tue, oui, mais la police surtout mutile. Combien de mains arrachées, combien de visages défigurés, combien de gens après derrière en garde à vue alors qu'ils n'ont rien fait. Bon, il y a une véritable violence policière, oui, et il y a une police qui peut tuer parce qu'en fait, elle est armée, surarmée, et elle est dangereuse.
Assassinat, meurtre, vous entendez ce que déclare un candidat à l'élection présidentielle. La police tue, assassinat, meurtre. Fabrice, vous êtes policier vous-même.
Ah oui, mais quand on entend de tels propos, comment ne pas réagir et d'être outré, sachant que ce monsieur, en plus, est un adepte de critiquer la police. Imaginez notre
profession.
On a
le droit de critiquer d'ailleurs la police et les journalistes ont le droit de. Parce qu'elle est parfaitement critiquable, comme n'importe quelle institution.
Mais dans quel propos d'assassinat, de criminels, ça veut dire que l'autorité publique de ceux qui défendent la nation française deviennent des criminels. Mais je pense, excusez-moi, mais Monsieur Poutou, je peux pas l'appeler comme Monsieur Poutou, je peux l'appeler qu'un bonhomme. C'est un bonhomme qui, aujourd'hui, met en mal à notre profession. Je ne suis pas syndicaliste, mais je pense qu'il faut monter au créneau, et Monsieur Darmanin a tout à fait raison derrière de tels propos.
Bah, il vous défend, Gérald Darmanin. Mais ça, vous pouvez être. Moi, j'ai l'impression que.
Bien sûr qu'il nous défend.
Il y a parfois eu des errements ces derniers temps au ministère de l'Intérieur, mais manifestement, là, vous avez quand même un ministre de l'Intérieur qui vous défend. La plainte de Gérald Darmanin, c'est pas rien.
Bien sûr, Monsieur Darmanin est très compétent dans le domaine au niveau de défendre notre institution de police, qui nous sommes des hommes de terrain, qui sont confrontés à des manifestations, à des faits divers au quotidien, sur lesquels on sait qu'on peut partir le matin et parvenir le soir. C'est notre famille, notre vie privée. Mettez-vous à la place d'un flic. Moi, je me mets à la place d'un enseignant qui aussi est molesté et qui n'a demandé rien à personne. Derrière, un policier n'est pas sûr de rentrer chez lui. C'est notre profession, c'est notre passion. Moi, je fais mon métier avec passion, mais l'ensemble de mes collègues également. Mais devant de tels propos outranciers, et de nous acculer de criminels.
Alors, Philippe est avec nous et Philippe a envie de défendre justement Philippe Poutou. Philippe qui est chauffeur poids lourd. Donc, peut-être que le débat va être vif entre Philippe et Fabrice, mais tentons au moins ce débat. Bonjour Philippe.
Ouais, bonjour.
Philippe, vous avez envie, pourquoi avez-vous envie de soutenir Philippe Poutou?
Alors déjà, une pensée à Steve, à Cédric Chouvia, à Adama Traoré, une pensée à ma pote Mélanie qui s'est fait mutiler pendant les Gilets jaunes. Enfin voilà, donc
Tous les noms que vous avez cités, les enquêtes sont en cours, l'affaire Traoré est en cours, et je crois que dans l'affaire Traoré, il y a 3 ou 4 enquêtes qu'on conclut à un non-lieu. Hein.
D'accord, et l'affaire Chouvia, j'étouffe cette fois.
Je vous répète,
Steve qui est mort noyé parce qu'il est tombé suite à l'intervention de la police.
Non mais là encore, l'enquête est en cours et il faut être extrêmement prudent. Je ne me prononcerai pas sur ces affaires, bien évidemment.
La seule chose que je pouvais dire, c'est que dans l'affaire
Traoré, il y avait déjà eu, je ne sais plus précisément combien, mais deux non-lieux qui avaient été faits sur cette affaire.
Je vous donne 3 noms parmi tant d'autres. Excusez-moi, j'ai pas de calepin sous les yeux, mais il y en a plein des victimes, d'accord, qui sont mortes ou qui sont pas mortes, ou alors qui ont peut-être été détruites psychologiquement.
Mais d'ailleurs, Philippe, qu'il existe dans la police nationale ou des erreurs ou des bavures, personne n'en contestera le fait.
Ah, d'accord, sauf que les gens sont pas armés, eux ils créent des bavures, mais ils sont armés.
Mais Philippe, c'est inhérent à tout corps social. Vous êtes chauffeur poids lourd, c'est comme si je disais tous les chauffeurs poids lourds sont alcooliques ou incompétents parce qu'un jour, un chauffeur poids lourd a renversé et tué une personne sur l'autoroute.
Alors,
c'est pareil.
En gros, j'incrimine pas toute la police, mais le corps policier. La police aujourd'hui doit être réformée. La police aujourd'hui a trop de pouvoir. La police aujourd'hui fait peur aux gens, fait peur aux puissants, à tel point qu'en fait, la police vous protège, mais qui nous protège de la police? Parce qu'en fin de compte, quand ils font des manifestations qui défilent à pas d'heure, les teutons, les gyrophares allumés, alors que les gens ils sont chez eux tranquillement, qui ont 11h du soir, machin, il n'y a personne qui leur dit rien. Quand ils vont devant chez une maire, alors je crois que c'est la maire de Nantes, je ne suis pas sûr de mon coup, je ne voudrais pas dire des bêtises, ils vont manifester devant chez la mère, il n'y a personne qui leur dit rien. Les mecs, ils manifestent
avec les
deux
sons. Fabrice vous répond, qui est policier.
Attendez, ils jettent les menottes à terre, on leur dit rien. D'accord. En Angleterre, les flics sont pas armés. Est-ce qu'il y a plus de délinquance en Angleterre qu'en France?
Je suis pas sûr que les flics, comme vous dites, ne soient pas armés en Angleterre. C'est les bobbies parfois qui ne le sont pas.
C'est la police. On est bien d'accord.
Oui, mais il y a une partie de la police qui est
des contrôles, contrôles QR code au café. Les mecs, on dirait qu'ils vont en Afghanistan.
Philippe, je vais vous dire, moi, ce que je trouve formidable et le film Bachner est très intéressant là-dessus, c'est que les policiers font preuve d'un sang-froid incroyable. Parce que insulter toute la journée, provoquer comme ils le sont, qu'il n'y ait pas davantage
de
bavure, je leur tire mon chapeau. Vraiment, je trouve formidable le sang-froid dont ils font preuve.
Les jeunes des quartiers populaires qui sont humiliés, qui sont frappés,
Comment on peut se mettre dans une discussion, vous savez qu'ils se font. Mais allez un jour avec des policiers. Allez toute la journée. Quand tu te fais insulter, cracher dessus toute la journée.
Écoutez, leur métier, ils l'ont choisi. Est-ce que c'est pour ça, pour autant?
C'est pour ça qu'il faut se faire insulter.
Non, je termine.
La pause et après, vous revenez avec Fabrice parce que c'est Fabrice qui va vous répondre. C'est Fabrice le policier, c'est pas moi. À tout de suite.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
Et vous pouvez réagir d'ici la fin de l'émission aux Rolling Stones qui ont repris leur tournée, mais ils ne joueront plus une chanson, Brown Sugar, leur titre emblématique et controversé, des paroles qui font explicitement référence à l'esclavage et sont taxées de racisme. Un titre sorti en 1971, c'est l'un des morceaux les plus connus des Rolling Stones. 3210-3210.
Donc Philippe n'a pas de mots assez durs sur la police et Fabrice qui est policier entendait Philippe. Je vous propose Fabrice que vous répondiez à Philippe et puis la conversation va pouvoir se mettre en place.
Effectivement Pascal Pro, je pense que je tiens à souligner aussi votre antenne qui permet cet échange et je respecte totalement l'interlocuteur qui a l'antenne. Maintenant faire un procès d'intention à la police nationale en se référant à des, comme vous avez dit, des enquêtes qui sont encore en cours, l'affaire Traoré ou
d'autres. Votre collègue a gardé le papier.
Non mais laissez terminer, je vous propose Philippe. Fabrice, bon, après, là vous avez parlé, donc Fabrice vous répond.
Nous sommes dans une catégorie de métiers où nous sommes aux directives aussi du ministère de l'Intérieur et de la Présidence. Je pense qu'on fait appliquer sur le terrain que notre bon valoir. Nous sommes des gens qui sont honnêtes, pères de famille aussi, qu'on va contrôler toujours les mêmes et voilà, on contrôle toujours les mêmes, et à un moment ou à un autre, ça devient rédhibitoire. Donc, je pense que les propos d'accusation et de procès d'intention de cet interlocuteur sont totalement déplacés, et je pense que les différents auditeurs jugeront par eux-mêmes. Je pense que, voilà, nous, on fait notre métier. Moi, j'ai l'occasion d'intervenir à l'antenne auprès de vous, de dire les choses, d'avoir un droit de réserve, de rester dans mon droit de réserve, mais je pense qu'on fait notre métier. Moi, je suis père de famille, je rappellerai à cet interlocuteur que je suis père de famille. Quand je rentre, moi, je suis content, mais j'ai accompli mes missions et je ne suis pas là pour taper sur des gens ni rien, quoi.
Philippe, vous avez eu affaire à la police ?
Alors, excusez-moi, j'ai pas voulu vous couper, c'est juste que je suis au travail, donc je vais parler à une autre personne.
Vous avez eu affaire vous-même à la police ?
J'aimerais bien dire, à somme, que moi aussi je suis père de famille, que moi aussi, quand je vais à une manifestation, alors que c'est pacifique, hein, je suis pas là en mode black bloc, d'accord ? Que je n'avance pas assez vite d'après la police, alors que je suis sur le trottoir et non pas dans la manifestation. Je me fais pousser avec les boucliers et je me retrouve avec trois flics en train de me défoncer sur un mur. Est-ce que c'est normal ? Et attention, les mecs, ils vous frappent et ils sont habillés en hockeyeur, hein, les gars.
Oui.
Et on a toujours du mal à imaginer la situation que vous venez de décrire. Moi, je n'imagine pas que des policiers frappent aujourd'hui des personnes.
Habitez chez les bisounours. Vous habitez chez les bisounours.
Mais je fais des manifs comme vous. Je vois que parfois, je vous assure, il y a je ne sais combien de.
Non, je ne veux pas faire la victime. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut dire les mots. Vous vous plaignez d'être victime de violence, d'accord, violence verbale, violence physique, machin. Et par contre, vous n'êtes même pas capable de reconnaître qu'il y a une violence policière.
D'accord. On est sanctionné derrière.
Mais vous êtes sanctionné de quoi, l'IGPN ? C'est vos copains, les trucs qui vont à l'IGPN. Ma pote, elle a été à l'IGPN. Déjà, pour poser plainte à l'IGPN, il faut déposer un chèque. Est-ce que c'est normal ?
Oui, votre pote, oui. Bon, ça,
est-ce que c'est normal qu'en tant que citoyen qui va attaquer un policier, qui doit donner de l'argent ? On lui demande de l'argent.
Monsieur, je vous respecte, mais je pense que vous êtes outrancier dans vos propos vis-à-vis de l'institution.
Non, je ne fais juste que déclarer les faits. Il n'y a aucune outrance là-dedans. Je ne fais juste que refléter des faits. C'est vous qui vous posez en victime, du coup, parce que je vous impose des choses que vous savez vraies, et que du coup, tout ce que vous allez faire, vous, de votre côté, c'est nous sommes la pauvre police, on est méchants avec nous, nous sommes des victimes. Et tout ce que vous allez faire, du coup, c'est manifester, mettre la pression aux politiques, et comme les politiques, vous êtes leur chien de garde, tout ce qu'ils ont à faire, en gros, c'est à vous obéir. Comme ça, ils ont la paix. Et comme ça, la police va les aider.
Nous sommes humains avant toute chose et nous respectons les choses. Et je suis désolé, ce que vous avancez n'est pas concrétisé. Je suis désolé.
Bon, Fabrice et Philippe, merci. Chacun a pu s'exprimer. Il est 14h16 et puis on a un dernier sujet peut-être plus léger entre le camembert et la mozzarella. Je ne sais pas, cher Olivier, sur la page Facebook, si ça excite nos auditeurs.
Bien sûr, Pascal, j'ai écrit les commentaires du sujet que vous venez de traiter. Alors, comme vous voulez.
Oui, allez, faites-le.
Je l'ai dit quand même. Bon, allez, on y
allez-y,
va.
Allez-y.
Alors, Anna nous écrit, Philippe Poutou va bien trop loin, il généralise toute une profession. Emmerich va dans le même sens, c'est à cause de ce type de déclaration que les tensions subsistent entre police et population. Et on conclut avec Anthony, qui invite le candidat à se rendre sur le terrain avec les forces de l'ordre.
Est-ce qu'il a un bonobo ?
Pardon ?
Est-ce qu'il a un spa ou pas ?
Alors là, j'ai pas totalement compris. Autant des fois, voilà, mais là, quand même.
C'était quelqu'un qui s'appelait Jean Sas qui faisait ça.
D'accord.
Et il faisait des blagues et il disait aux gens, est-ce que vous avez la bombe ou pas ? Je ne sais pas si c'est possible ou pas.
Non, je ne sais pas. Il était meilleur que moi en blague ou pas du tout ?
Non, c'était pas en blague. Et j'ai voulu comme ça m'amuser.
Merci beaucoup.
En rappelant ce souvenir de Jean Sas. On parle que des gens des années 70, c'est ça qui est.
Vous m'apprenez des choses tous les jours. Et ça, c'est
bon, vous êtes mozzarella ou camembert ? Ami.
Camembert, quand même.
Ah bon.
Bien sûr.
Bon, bah écoutez, ça va être notre dernier débat. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est le dernier sujet du jour. Paraît-il qu'on consomme davantage de mozzarella aujourd'hui que de camembert. C'est la première fois en France que ça arrive. La courbe des ventes de camembert en baisse régulière de 3% par an est passée en dessous de celle de vente de mozzarella. Nous sommes avec Alain qui habite Toulouse. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Ça vous étonne ou pas ?
Non, en tant qu'ingénieur laitier, ça ne m'étonne pas, et en tant que consommateur. Le camembert, alors, je pense qu'il parle du camembert pasteurisé, enfin, camembert AOC de Normandie, donc on est plus dans un fromage gastronomie, de repas de famille, et ça, ça tend un peu à disparaître. Alors que la mozzarella, je pense plutôt, là, on ne parle pas de fromage à pizza, mais sans doute de fromage salade. Et donc, c'est plus
mais qu'est-ce que vous préférez ? Vous trouvez que la mozzarella, c'est meilleur ?
Écoutez, d'abord, j'aime tous les fromages, donc là, il n'y a pas de souci. Et la mozzarella, je vais préférer celle au lait de Buffles, la di Bufala, là où c'est. Mmh. Effectivement, c'est un fromage frais, subtil, qui accompagne très bien les salades, la salade tomate mozzarella. Donc, et puis, c'est mis partout dans les sandwicheries, dans les sandwichs, un peu moins fort que le camembert à où c'est. Donc, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Et après, c'est les tendances un petit peu modernes de la restauration hors foyer.
Bah Nicolas est là également, qui est agriculteur. Bonjour Nicolas. Même constat, vous avez le sentiment que vous préférez vous-même peut-être la mozzarella ?
Ah non, 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 non.
Non.
Non, non, je mange du camembert, moi.
Ah, mais alors oui, pourquoi le succès de la mozzarella, selon vous ?
Mais la restauration rapide.
Mais pourquoi c'est plus rapide de manger de la mozzarella que du camembert ?
En sandwicherie, il y a moins quand même de camembert, je pense. Les pizzas, vous verrez rarement une pizza avec du camembert. Mmh. Et puis le changement de consommation des gens. La consommation est quand même moins élevée, donc on mange du rapide, on va toujours au plus vite. Et comme disait le précédent juste avant moi. Il y a très peu de mozza di bufala, quoi.
C'est-à-dire, c'est quoi la mozza di bufala ?
C'est fait au lait de bufflone.
Ah oui, ça m'avait échappé, effectivement.
Donc là, c'est le must, quoi. Mmh. Hein, comme, et celle-là, il y en a très peu de consommés, hein, puisque l'AOP est pas grand, hein, pour ça. Donc,
merci. Merci, donc, parce que ça va être l'heure peut-être de déjeuner pour nous, pour Damien Béchiot, pour Laurent Tessier. Est-ce que nous déjeunons après les auditeurs ? Alors, je ne sais pas si vous mangez du camembert, cher ami.
Tous les jours ?
Non.
Ah si, mais pourquoi non ?
Parce
mais
que
j'ai le droit.
Mais vous faites d'abord, vous avez tous les droits. Mais c'est vrai que je n'en mange pas, personnellement. Damien Béchiot, vous mangez également du camembert ?
Oui, pas tous les jours, mais oui. D'accord. C'est très bon le camembert.
Mais j'en doute, je n'en dis pas.
Vous n'aimez aucun fromage ?
Je n'ai jamais mangé de fromage.
Et vous le mettez au four avec des petites pommes de terre, c'est succulent.
Même une raclette ?
Non, alors là, si vous voulez m'inviter chez vous, vous ne me faites pas de raclette.
Une fondue ?
Non, fondue, non.
Mais tout se perd.
Chacun. C'est... Voilà.
Le débrief,
il est 14h23.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Alors, de quoi avons-nous parlé aujourd'hui ?
J'ai parfois l'impression que le Éric Zemmour a remplacé le Covid. C'est-à-dire qu'on parlait que du Covid et maintenant on parle beaucoup d'Éric Zemmour.
Éric Zemmour peut-il accéder au second tour de la présidentielle et devancer Marine Le Pen, la candidate du RN ? Jean-Pierre a fait son choix.
Je ne vais pas vous surprendre, ça sera Monsieur Éric Zemmour. Je pense que Marine Le Pen est le problème du Rassemblement National. Marine Le Pen et la famille Le Pen sont usées, sont fatiguées.
Et une chose est sûre, Lionel n'a pas l'air très emballé par une nouvelle saison à l'Elysée avec Emmanuel Macron dans le rôle principal.
Enfin, de toute façon, maintenant, on ne peut pas avoir plus pire que Monsieur Macron. Et maintenant, on le prend pour Dieu.
Cœur te dit je t'aime. Ah, que d'amour dans l'émission. Alors selon un dernier sondage BVA, Emmanuel Macron reste le favori, derrière Marine Le Pen avec 16,5% d'intention de vote, environ 13,5% pour Éric Zemmour. Et qui sait, peut-être que Monsieur Boubouk jouera un rôle dans cette présidentielle. Testons sa popularité, Pascal.
Vous êtes habitué désormais à notre ami de Facebook, qu'on appelle une ou deux fois dans la journée. C'est un jeune qu'il faut mettre le pied à l'étrier à la jeunesse.
Et maintenant,
à coup
de pied au cul maintenant.
Ça va trop loin. Sinon, une information.
Non essentiel.
Ah oui, là, j'ai mal, mais vraiment mal à ma France après ce que j'ai appris en écoutant RTL Midi.
Figurez-vous que je ne mange pas de fromage. Et je n'en ai jamais mangé de ma vie, figurez-vous.
Non ! Impossible ! C'est pas possible ! Sinon, nous sommes très vigilants les uns les autres sur les tenues portées RTL. Un exemple avec Julien Courbet.
Ça vous va vraiment bien le col roulé blanc.
Très années 80, très ski, ouais. Vous avez vu.
Le commandant Cousteau s'habillait comme ça.
Vous avez entièrement raison. Ça va être le commandant Cousteau parce que je vais vous couper le sifflet là, dans deux minutes.
Heureusement, Amandine Bégaud est là pour soutenir l'ami Julien Courbet.
Amandine vous salue.
Ah, bonjour, je lui fais un gros bisou, Amandine. Vous aimez bien mon soupule, vous, Amandine ?
J'adore.
Merci. Ah, c'est un soupule.
C'est un soupule.
Voilà. Ah, RTL, oui.
mais on pourrait parler de votre look aussi.
De qui? Du mien? Non,
non, celui de Pascal. Pascal. Bon,
est-ce que vous pouvez appeler ça un look?
Sinon, une envie pour ce week-end, Pascal?
Allez hop, tout le monde à la campagne. Allez hop.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Alors, suivons ce fabuleux conseil. Allez hop.
C'est vrai que c'est un sujet qu'on a traité dans les auditeurs, puisque des Parisiens quittent la ville pour aller dans, précisément à la campagne et vivre peut-être avec davantage de plaisir au grand air.
Dans la sérénité.
La sérénité, c'est l'heure du crime avec vous, Jean-Alphonse.
Ouais, ouais, exactement.
Avec un dossier qui va nous passionner.
Un dossier très actuel et incroyable, c'est l'affaire de l'anesthésiste de Besançon, le docteur Péchier. Est-il un tueur en série? Ben, on va répondre à cette question dans l'heure du crime.
Il s'est défenestré il y a quelques jours.
Oui, le 30 septembre exactement. Il va mieux. Enfin, voilà. Il est toujours poursuivi par la justice.
Merci Jean-Alphonse, on vous écoute. Et nous, on se donne rendez-vous demain.
À demain.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.